J'aimerais saluer aussi particulièrement tous ceux qui sont sur Internet et qui nous suivent. On les bénit et on espère qu'ils sont encouragés. Ce matin, j'aimerais, et je reviens sur ma première question, poser une petite question toute simple. Vous êtes-vous arrivé de prendre des décisions de façon hâtive, trop vite ? Par moment, et je crois que c'est quelque chose qui nous est propre à chacun, nous avons eu tous, à un moment donné, parce que les circonstances ne nous le permettaient pas, parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser. Et on ne fait pas toujours les bons choix. Ou peut-être on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Et ce n'est pas sans me rappeler une histoire que j'ai vécue moi-même, où à un moment donné, lorsque j'ai commencé mon ministère, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu dans notre assemblée l'équipe qui s'occupait de la scène. Et il ne faut pas croire, mais ce n'est pas si facile que ça. Vous avez des gobelets qui ont circulé, vous les avez vus. Et lorsqu'on prépare la scène, la grande difficulté, si on n'est pas bien outillé pour, c'est de remplir ces petits gobelets de vin. Et vraiment, je voyais cette équipe dans la première église où j'étais, je voyais cette équipe qui vraiment avait beaucoup de difficultés pour remplir ces gobelets. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Alors je suis allé les voir, j'aurais dit, écoutez, moi je vous propose mon aide, je vais essayer de trouver une solution pour que vous puissiez remplir vos gobelets facilement pour que ça ne déborde pas, parce qu'ils avaient une espèce de bouteille, et puis quand ils versaient, ça allait de partout, et puis ils devaient passer derrière avec un chiffon pour nettoyer le plateau. Bref, c'était compliqué. Et je me suis dit, je leur ai demandé, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux trouver une solution? Ils m'ont dit, oh volontiers Pierre, c'est tellement galère, tellement difficile, trouve-nous une solution. Alors je me suis mis en quête de trouver une solution, j'ai cherché, puis je me suis rappelé que quand je travaillais dans un laboratoire, nous avions des petits conteneurs en plastique, et ces conteneurs en plastique avaient un tube en plastique qui permettait de verser. Alors je vous en ai apporté un ce matin. Et ceci s'appelle une piscette. Et vraiment j'étais content d'avoir trouvé cette solution, parce qu'en fin de compte, quand on utilise cet appareil, on remet le vin dedans et puis on peut remplir facilement les gobelets. Et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé la solution. Et je me suis mis en quête de trouver des piscettes. J'ai trouvé un fournisseur, je vais sur Internet, je m'inscris, je remplis la facture, et à un moment donné, il me demande quelle quantité voulez-vous. Je me dis, bon, peut-être une église en aura, une autre église pourrait en avoir besoin. Alors je vais en commander deux. Je mets deux dans la case quantité et je suis content. Je me dis, dans 2 semaines, c'est bon, le paquet va arriver. J'envoie, je paye, c'est raisonnable, je me dis c'est super. Franchement, dans 2 semaines, les frères et sœurs vont me bénir. J'étais ravi de ça. Et 2 semaines après, le facteur arrive, il sonne chez moi. Et aux surprises, il m'amène un carton gigantesque. Je me suis dit, je ne voyais pas les piscettes aussi grosses. Je le regarde, je vois le fournisseur. Je dis, c'est peut-être une erreur. Non, c'est bien moi. J'ouvre le paquet, je réceptionne, j'ouvre le paquet. Et là, je trouve pas une, je trouve pas deux, mais je trouve 20 piscettes. 20 piscettes dans le carton. Et là, je me dis, j'ai de quoi bénir 20 églises. Merci Seigneur. Mais je me suis surtout dit, mais comment je vais faire pour me débarrasser de 20 piscettes? Ça tient de la place. Hein, je vous laisse imaginer le truc. Et je me dis que malgré tout, bon, j'ai quand même béni mon église. J'arrive le dimanche matin avec ma piscette et je la porte à l'équipe de Saint-Saint. Je leur dis, voilà l'outil, c'est fantastique, vous allez voir, ça va fonctionner de tonnerre. Ils récupèrent l'outil, ils me remercient, puis je les vois commencer, ils remplissent, et puis je pars parce que j'étais en train de faire autre chose, je les laisse faire. Puis au bout de 2 cultes, je vais les voir, et puis je les revois avec leur ancienne bouteille. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça va pas, ça fonctionne pas bien. Ils m'ont dit, Pierre, ah, c'est pas ce qu'on attend. En tout cas, ça marche pas bien. Alors, j'étais très déçu. Mais je me suis encore... Mais au fond de moi, je me suis dit, mais maintenant, et finalement, ça ne me convient pas. Alors, comment je vais me faire pour me débarrasser de ces 20 piscettes? Alors, du coup, après plus de 10 ans de ministère, 3 déménagements, j'ai réussi à m'en débarrasser de quelques-unes, mais il m'en reste une dizaine. Donc, si quelqu'un en veut, c'est très utile, une piscette. Hein. Je donne ça vraiment avec joie pour celui qui veut les récupérer. On a tous besoin d'une piscette chez soi. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Cela dit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait pour me retrouver avec 20 piscettes? Et là, je revais sur le site internet. Je vais sur mon compte, je vérifie. Et là, j'ai vu où est l'erreur. Je suis allé trop vite. Parce que quand j'ai mis 2, j'ai pas mis un 2 pour 2 piscettes, j'ai mis un 2 pour 2 lots de 10 piscettes. En effet, et vous êtes d'accord avec moi, par moments on va très très vite. Par moments on va même trop vite. Et quand on lit les Écritures, un passage nous vient souvent à l'esprit, ce passage dans Luc, où cet évangile nous compte de trois paraboles de Jésus. Et les deux premières font référence à quelque chose de vrai, quelque chose de réel. Il nous dit à un moment donné, dans Luc chapitre 14, on va le prendre en quelques instants, mais il nous donne un conseil. Avant de prendre une grande décision, ou partir à la guerre, ou bâtir une tour, qui d'entre vous ne s'assit pas, compte, afin de voir s'il peut. Et puis, vous avez une autre parabole, la parabole qui suit, on est dans la même lignée, même chose, si un homme part à la guerre, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il doit s'asseoir, et puis il doit regarder si c'est possible, s'il peut aller combattre 20 000 alors qu'il a 10 000. Alors ce texte, nous le trouvons dans l'évangile de Luc, on va le prendre ensemble. À partir du verset 28. Luc, chapitre 14, verset 28. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Verset 31. « Ou quel roi, s'il va à la guerre ?» À un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Verset 34, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous l'avez vu comme moi, ce passage de Jésus fait référence à trois paraboles. J'ai parlé des deux premières, où finalement les deux premières sont assez proches les unes des autres. Et puis nous avons une troisième parabole où Jésus, là, nous identifie à du sel et nous invite à considérer que l'on peut perdre sa saveur. Permettez-moi juste pendant un instant de revenir sur les deux premières paraboles. Puis dans un deuxième temps, nous viendrons sur la troisième. Mais quelques instants, j'aimerais que nous nous penchions sur ces deux paraboles que Jésus va donner. Deux paraboles qui ont un sens particulier, puisque la première fait référence à un bâtisseur, quelqu'un qui va se lancer dans une entreprise, un entrepreneur qui va se lancer dans la construction d'une tour. Et puis Jésus dit, mais voilà, ben si tu veux construire une tour, et lequel d'entre vous ne fait pas ça, s'assoit, et puis il se met à compter, voir s'il peut aller au bout de la construction. Parce que s'il met les fondations et qu'il se rend compte qu'il ne peut pas aller au bout, ben, ceux autour vont le railler, vont se moquer de lui, parce que finalement, il s'est lancé dans une entreprise sans considérer l'étendue et les conséquences et la portée du projet. Entre guillemets, ben, on allait se moquer de lui parce que c'est un insensé. Et dans la même lignée, la deuxième parabole est dans le même esprit, puisque dans ce second passage, dans cette seconde parabole, Jésus fait référence à un roi qui, lui, part en guerre contre un autre roi. Et là encore, ce roi est appelé à s'asseoir et à examiner s'il est capable de vaincre avec 10 000 alors qu'il va combattre 20 000. Et puis finalement, le texte dit, mais s'il se rend compte qu'il ne peut pas, eh bien en fait, il doit envoyer une ambassade vers ce roi qui est en chemin, lui, et lui essayer de trouver un terrain d'entente, faire la paix avec lui, telle sorte que ça ne se termine pas en bain de sang. Jésus raconte ces deux histoires, mais ce ne sont pas des histoires innocentes. Jésus parle de ces deux paraboles parce qu'il a une idée derrière la tête. Bien souvent, le Seigneur prenait des éléments de contemporains proches de son histoire, et en tout cas proches de l'histoire de ceux qu'il écoutait, pour les amener à mieux comprendre. Et lorsque Jésus fait référence à ces deux paraboles, Jésus subtilement fait référence à deux histoires. Des histoires qui sont contemporaines de ce peuple, de cette foule qui était en train de l'écouter. Alors la première histoire, elle est très simple. Elle fait référence à un constructeur, à un entrepreneur romain qui est devenu tristement célèbre parce qu'il a construit un amphithéâtre. Et il est devenu tristement célèbre parce qu'à l'époque de Jésus, je crois que c'est en 24 après la naissance de Jésus, cet amphithéâtre qu'il a bâti s'est effondré lorsque 50 000 personnes y sont rentrées. Et l'histoire raconte que cet amphithéâtre était connu parce qu'il y avait des malfaçons partout, parce que l'entrepreneur avait utilisé des mauvais matériaux, et que finalement tout le monde savait que cet amphithéâtre était fragile. Et le jour où 50 000 personnes sont rentrées dedans, 20 000 en sont mortes, parce que l'amphithéâtre s'est effondré sur eux. Et finalement, cette histoire, elle a fait le tour de l'Empire romain. Elle est même arrivée certainement jusqu'à Jésus et aux contemporains de Jésus. Et lorsque Jésus raconte cette histoire de cet entrepreneur qui tente de construire une tour, il fait référence à cet entrepreneur romain, pardon, qui a tenté de construire un amphithéâtre, mais qui n'a pas bien fait son travail. Et l'histoire rend compte que cet entrepreneur a fini banni du royaume, a fini banni de l'Empire, avec un blâme sur sa vie et sur lui. La honte était tombée sur lui parce qu'il y avait malfaçon et qu'il avait mal fait le travail. La deuxième histoire, ou la deuxième parabole que Jésus nous raconte, finalement, est une histoire qui est plus proche de lui. Puisque Jésus, quelque part, et c'est ce que beaucoup de commentaires pensent ou font référence, pensent que Jésus fait référence à Hérode. Hérode, qui, à un moment donné dans sa vie, va désirer changer d'épouse. Et il va répudier sa première épouse pour se marier avec Hérodias. Hérodias qui va demander la tête de Jean-Baptiste dans les évangiles que nous connaissons. Et parce qu'Hérode va, sur un coup de folie, se débarrasser, entre guillemets, de son épouse précédente, le roi, le père de cette ancienne ou de la première épouse d'Hérode, va faire la guerre à Hérode. Parce que c'était vécu comme un déshonneur. Et le roi va lancer ses troupes à l'attaque d'Hérode. Et Hérode va faire de même. Seulement Hérode, lui, part avec des troupes moindres. N'a pas calculé les choses. N'a pas réalisé les enjeux, ou en tout cas les catastrophes que ça allait produire. Et il envoie son armée combattre celle de son ex-beau-père. Et l'histoire raconte que Hérode va subir une terrible défaite. Et que des milliers d'hommes vont mourir. Qu'est-ce que Jésus essaie de faire au travers de ces paraboles? Il essaie de mettre en relief les conséquences de nos actions quand elles sont insensées, quand nos choix au départ sont insensés. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de nous conseiller réellement d'un moment donné dans les décisions, dans les choix qui nous appartiennent, d'un moment nous poser, nous asseoir et puis calculer, examiner les situations. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à être des insensés, à fonctionner sur des coups de cœur, à ne pas réfléchir. Par moments, on pourrait être tenté, parce que la foi, quelque part, tellement elle nous appelle à déplacer des montagnes, que quelque part, il vaudrait mieux peut-être y aller sans réfléchir, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Et finalement, lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus tient à ce que nos décisions, nos choix, soient des choix réfléchis. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à être un peuple irréfléchi, un peuple d'insensés. Je pense à ça parce que Jésus nous a laissé un exemple au travers de sa propre personne. Lorsque Jésus va s'engager, ou il va prendre le baptême, mais il nous dit qu'à la sortie de son baptême, avant même de commencer son ministère, Jésus va prendre 40 jours de jeûne et de prière. Moi, je pense que Jésus, il avait besoin de s'arrêter un instant. Il avait besoin de se poser, il avait besoin de s'asseoir, il avait besoin de réfléchir, il avait besoin de compter. Il avait besoin d'examiner ce que son père était en train de lui dire. Et quand on connaît l'histoire de Jésus, et quand on connaît ce que Jésus va faire et son ministère, certes, il y a 3 ans où il va voir des miracles, où il va servir son père, où la gloire de Dieu va se répandre, mais il y a surtout au bout de ces 3 ans une croix qui l'attend. Et je peux comprendre que Jésus, sachant sa destinée, avait besoin de prendre la mesure des choses, avait besoin un moment de s'arrêter et de dire « Mon père, j'ai besoin de m'arrêter un instant pour réaliser où je vais. » Et finalement, en tant qu'enfant de Dieu, et ça c'est ma conviction profonde, nous ne sommes pas appelés à être un peuple irréfléchi. dans nos choix, dans nos décisions, dans ce qui nous appartient. Peut-être, certes, Dieu nous appelle. Et par moments, Dieu nous appelle. Par moments, Dieu met sur nos vies des choses, des choix à faire. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons les saisir telles quelles et dire Seigneur, et ne pas peser le pour et le contre. Et à un moment donné, réfléchir, s'asseoir et dire Seigneur, qu'est-ce qu'il en est ? Avant de répondre à l'appel de Dieu, j'ai vécu une période un peu particulière. J'ai reçu l'appel lorsque j'étais en licence et c'était vraiment fort sur mon cœur. Et à la fin de ma licence, j'avais deux choix, soit je poursuivais mes études ou soit je partais directement dans ma formation biblique en Angleterre. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit au fond de moi, j'ai besoin d'asseoir certaines choses par rapport à ma décision. Certes, il y a cette perspective, il y a un appel sur ma vie. Et donc j'ai pris une année, j'ai fait ma maîtrise et à la sortie de ma maîtrise, je suis parti en Angleterre faire ma formation biblique. Et pendant cette année-là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, Seigneur, où je vais? Où tu m'amènes? Quels sont les objectifs? Et finalement, au bout de tout cela, j'en suis sorti grandi et fortifié par rapport à ma décision. Maintenant, si, et en effet, Dieu nous appelle à réfléchir quant à nos décisions, à peser le pour et le contre, à s'asseoir, comme il est dit dans les Écritures, à calculer, à examiner les situations, qu'en est-il de ce conseil quand il fait face au défi de la foi? Je pose cette question parce qu'elle est importante, parce que notre foi, notre vie ou ce que Dieu nous amène à vivre par moment nous dépasse de loin. Je pose cette question parce que Dieu ne nous appelle pas à une tranquillité ou à un repos. Dieu nous appelle à vivre des choses glorieuses. Qu'en est-il si à un moment donné, Dieu nous appelait par exemple à combattre des Goliaths? Et je me suis mis à la place de David et je me suis dit, bon Seigneur, pesons le pour et le contre. Asseyons-nous, réfléchissons, voyons le pour et le contre. Et je me suis mis aussi à la place de Moïse qui est en face de la mer Rouge. Et là encore, je me suis dit, Seigneur, quel défi, je vais m'asseoir, je vais réfléchir, examiner ma situation. Et puis on pourrait prendre l'exemple de Gédéon, avec ses 300 qui va combattre la multitude de Madian. Seigneur, réfléchissons, comptons, 300, des myriades, ouh. Et vous savez, face à ça, et face à ces décisions, ces choix qui sont les nôtres, et par rapport au conseil de Jésus, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand les défis qui sont devant moi me dépassent de loin? Qu'est-ce que je fais quand l'armée est tellement grande, quand la montagne est tellement grande, immense? Qu'est-ce que je fais? Parce que tu m'as donné deux paraboles, tu m'as donné deux versets qui m'amènent à réfléchir, à poser le pour et le contre en me disant, est-ce que je peux? Et finalement, je me suis mis à la place de Moïse en face de la mer Rouge, est-ce que je peux? Ouh, point d'interrogation. Je ne sais pas. Est-ce que face à Madian, avec mes 300, est-ce que je peux, Seigneur? Si je calcule bien, c'est quand même risqué. Et puis, si je me mets à la place de Moïse, en face de cette mer Rouge, est-ce que je peux, Seigneur? Dans ces deux paraboles, Jésus dit deux choses très vraies. Il dit, si tu ne peux pas, abandonne. Abandonne de peur de devenir la risée en ce qui concerne cet entrepreneur qui doit bâtir cette tour. Et puis quant à l'autre, Jésus va dire, mais à ce roi qui est insensé, mais s'il se rend compte qu'il est en faiblesse ou qu'il ne peut pas affronter cet adversaire, qu'il envoie une ambassade et qu'il aille faire la paix avec son ennemi. Est-ce que c'est ce que je dois faire, Seigneur, face à mes impossibilités? Est-ce que c'est là ce que tu m'appelles à vivre, en me posant et en réfléchissant? Est-ce que c'est ce que tu m'appelles à vivre? Est-ce que c'est ce que tu m'appelles de faire lorsque les choses me dépassent de loin? Est-ce que je dois abandonner? Ou est-ce que quelque part, Seigneur, comme pour ce roi, est-ce que je dois faire la paix avec l'adversaire? Et quand j'ai lu ça, ça tiltait dans mon cœur. Il y a comme un cri qui a émergé en moi. Je ne peux pas faire la paix avec l'adversaire de mon âme. Où vous avez vu ça dans les Écritures, qu'il faut faire la paix avec l'ennemi de notre âme? Dieu ne nous appelle pas à baisser les armes. Dieu ne nous appelle pas à faire la paix avec l'ennemi. Alors Seigneur, où tu veux me conduire? Qu'est-ce que je dois comprendre lorsque je dois m'asseoir, lorsque je dois peser le pour et le contre, lorsque je dois calculer, examiner les situations pour savoir si je peux? Alors quand j'ai posé les choses et que je les ai mises devant moi, en effet, je me suis assis, j'ai mis les points devant moi, j'ai examiné. Et puis il y a une chose qui m'est parue évidente. C'est que par moi-même, en effet, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Mais lui peut. Lui peut. Et vous savez, c'est là que la troisième parabole a son sens. Parce que si nous avons lu les deux premières, on pourrait s'étonner, mais qu'est-ce que vient faire cette troisième parabole? Parce que les trois sont liées. Et je vais vous dire en quoi elles sont liées. Parce qu'elles ont toutes les trois un point commun. C'est que chaque situation révèle un manque. Lorsque vous prenez l'entrepreneur qui doit construire sa tour, est-ce qu'il peut? Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les moyens. Lorsque vous prenez le roi qui doit partir en campagne pour combattre cet autre roi, le problème qu'il a, c'est qu'il est en sous-nombre, en sous-effectif. Il ne peut pas parce qu'il n'a pas les moyens lui non plus. Quand on scelle, le sel est bon, mais si le sel perd sa saveur, l'entrepreneur n'a pas de moyens. Le roi n'a pas assez de force et le sel, il a perdu sa saveur. Les trois paraboles ont un point commun. Il y a un manque quelque part. Il y a un manque quelque part. Il manque quelque chose à l'histoire. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on ne peut pas aller au bout. Et finalement, lorsqu'on regarde les choses sous cet aspect-là, on réalise que ce que Dieu veut nous montrer au travers de ces paraboles, c'est que dans nos vies, par moments, on a la volonté de bâtir une tour qui honore Dieu, qui glorifie Dieu par notre témoignage, par notre vie. Mais vous savez quoi? Par moments, on n'arrive pas au bout parce qu'il manque quelque chose dans nos vies. Par moments, on est en face de milliers d'adversaires qui sont innombrables. Et puis là, on se positionne et on dit, Seigneur, mais qui si tu es avec moi, qui sera contre moi? Et finalement, au bout du compte, on réalise une grande vérité, c'est qu'on ne peut pas parce qu'il nous manque quelque chose. Et finalement, vous savez ce qu'on est amené à faire par moments dans nos vies spirituelles? On est amené à faire la paix avec l'adversaire. Mais c'est tragique! Parce que dans nos vies, il manque quelque chose, parce qu'il manque un élément crucial qui fait qu'on n'est plus et on ne peut plus être appelé sel. Parce que si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on saler? Le sel n'est plus bon qu'à être jeté, il n'est plus utile. Dans nos vies spirituelles, par moments, on vit cette situation-là où on est appelé et censé être appelé sel, mais il manque ce qui est essentiel. Et c'est ça, et c'est ce que ces trois paraboles essaient de nous montrer, c'est ce que ces trois paraboles essaient de nous conduire à réaliser. Lorsque Jésus nous dit de nous poser, de nous asseoir, de réfléchir, de réaliser, de calculer, il ne nous amène pas à abdiquer au travers de ça, à réaliser nos manquements ou nos incapacités, mais il est en train de révéler que dans nos vies, il y a des manques. Il nous demande de réfléchir, de compter et de réaliser qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. On est un sel, mais on n'a pas de saveur. On est un entrepreneur, mais on n'a pas les moyens de bâtir la tour. On est un roi qui veut faire la guerre, mais qui ne peut pas la faire. Parce que dans nos cœurs, dans nos vies, par moments, il y a des manques qui font qu'on n'avance pas. Alors on voudrait construire la tour, mais on ne peut pas. Alors on voudrait vaincre les géants, mais on ne peut pas. On voudrait être le sel de la terre, mais on a perdu la saveur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Où Dieu veut nous conduire par là? Où Dieu, où le Saint-Esprit est en train de nous conduire ce matin? C'est qu'au travers de cette simple réflexion, à un moment donné, on s'assoit, on compte. Dieu veut nous amener à réaliser, non pas que nous ne pouvons pas, nous savons que nous ne pouvons pas. Jésus va le dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais à côté de ça, il y a une chose que Dieu veut nous amener à réaliser, c'est que face à nos impossibilités, lui a la solution, lui a la clé, lui a ce qui nous manque pour faire tomber les géants, lui a ce qui nous manque pour bâtir cette tour qui honore Dieu, il a ce qui nous manque pour devenir ce sel qui a une saveur. Seigneur, ne nous amène pas à nous asseoir et à réfléchir sur notre condition pour finir par abdiquer. Et cet après-midi, je ne suis pas là pour te dire face à ta situation que tu ferais mieux d'abandonner, que tu ferais mieux de dire « Oh, laissons tomber, arrêtons de nous battre, faisons la paix avec l'adversaire, je ne peux pas te dire ça. » Par contre, ce que Jésus essaie de nous dire ce matin et essaie de nous faire comprendre, c'est qu'il est la clé, qu'il a la solution à ce qui nous manque pour vaincre les géants, pour voir les armées tomber, pour construire une tour qui l'honore et qui le glorifie. Il y a une chose qui est vraie et qui est magnifique. Et je vais terminer par ce texte magnifique des Écritures, Actes chapitre 4. Permettez-moi de resituer le contexte, permettez-moi de resituer ce que cette histoire, ou en tout cas d'extraire ce texte du contexte. Parce que dans Actes chapitre 4, les apôtres commencent leur ministère. Et il y a un ministère de puissance qui est associé à leur ministère. Ils vont guérir et ça va quelque part leur retomber dessus. Le Sanhédrin va s'en mêler. Et le Sanhédrin a peur de cette nouvelle approche, a peur de ce que cette religion est en train de faire, de ce que le christianisme est en train de se répandre. Alors, il convoque les disciples, il les arrête, et puis dans le Sanhédrin, il commence à les intimider, il commence à leur faire peur, il commence à les interpeller, à les menacer, c'est ce que disent les Écritures. Et alors que les disciples sont là et qu'ils entendent toutes ces paroles, moi je peux me mettre à leur place parce qu'on est en train de comparer deux choses qui ne sont pas comparables. On est en train de comparer le pot de fer et le pot de terre. On a 12 disciples qui n'ont pas d'armes, qui n'ont rien, et on a le Sanhédrin avec les gardes, avec cette foule d'extrémistes capables de tuer pour préserver la loi. Et là, dans ce contexte-là, et vraiment, je voudrais vraiment dépeindre ce contexte parce que c'est tellement compliqué, c'était tellement difficile pour les disciples. Ils partagent leur foi, ils vivent la puissance d'en haut. Et là, dans ce contexte-là, le Sanhédrin les arrête et est en train de couper toute envie, tout feu au sein de leur cœur. Et je suis interpellé parce que les disciples, à la sortie de cet entretien, le Sanhédrin va les menacer, va leur dire « Vous ne parlerez plus de Jésus, vous allez vous arrêter là. » Ils vont les menacer, ils vont leur faire peur. Et les disciples, à ce moment-là, vont sortir. Actes chapitre 4, vous voulez bien prendre ça avec moi? Vive les petites Bibles. Actes chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble, et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par ton Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Le roi de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son oint. Verset 27, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et lisez ça. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, pour que le nom de ton saint serviteur Jésus, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les disciples viennent d'être, entre guillemets, massacrés dans leur élan. On les a menacés, on leur a interdit de partager la bonne nouvelle. Et là, dans ce contexte-là, il y a quand même un feu qui continue à brûler en eux, mais il y a quelque chose qui s'est rajouté à ce feu, la crainte, la peur. Et quelque part, lorsqu'ils retournent, ils vont retourner voir le groupe, l'équipe de prière qui les attend, ils partagent. Et très honnêtement, on a l'impression qu'ils s'assoient, qu'ils comptent et examinent la situation. Vois les nations, vois les rois qui se sont ligués contre ton oint, vois les menaces, Vois les attaques. Vois ce qu'il nous réserve. Vois les proportions que ça prend. Vois ce que le Sanhédrin, les anciens d'Israël veulent nous faire. Vois ce qui est au-dessus de notre tête. Vois tout ce qui est en train d'anéantir ou en train de briser notre élan. Vois ce qu'il est en train d'entreprendre. Vois ce que l'ennemi essaie de faire. Il essaie de briser l'œuvre de l'évangélisation. Il essaie de briser ce qui est en train de se passer. Et j'aime ce constat des disciples parce qu'ils ne sont pas sur une autre planète. Ils sont bien ancrés avec la réalité. Ils savent ce qui les attend. Quand ils décrivent ça, ils savent exactement qu'il y a la persécution qui est à la clé. Ils savent très bien que ce même Sanhédrin qui a tué Jésus est capable de les tuer aussi. Et ils font le point, et ils additionnent les choses, ils calculent, et ils mettent en avant devant l'Éternel les réalités. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, ce qu'ils avaient besoin, il manquait une chose, de l'assurance. Parce qu'on leur a coupé leur élan. Parce que quelque part, ces paroles ont été destructrices au fond de leur cœur. Alors il a fallu qu'à un moment donné, ils se tiennent au pied du trône de la grâce. Et j'aime ce texte parce qu'il nous dit tous ensemble, ils vont élever la voix vers l'Éternel. Et cette prière de ces apôtres qui va monter vers Dieu, disant « Mais vois ce tumulte, vois les menaces, vois tout ce qui pèse sur nos têtes, vois tout ce que l'ennemi essaie de mettre en place pour nous désarçonner, vois les 20 000 et vois notre petit nombre, ils sont 120. Ils sont rien à côté de la menace qui est devant eux. » Et j'aime les disciples parce qu'ils vont chercher ce qui leur manque. J'aime ces disciples qui vont chercher ce qui leur manque. Ils n'abdiquent pas, ils ne disent pas non, c'est plus pour nous. Ils ne se désarment pas, ils ne tombent pas sous la menace, ils ne sont pas anéantis par ce qui pèse sur eux, mais au contraire, ils viennent chercher l'assurance auprès de celui qui peut leur en donner. Et j'aime tellement ces disciples lorsqu'ils vont se réunir tous ensemble. Alors ils vont dire, Seigneur, Seigneur, donne-nous l'audace et l'assurance de prêcher l'Évangile. Donne-nous ce qu'on nous a pris. Rends-nous ce qu'on nous a essayé, ce qu'on a essayé de nous voler. Et associe ça à ton bras puissant éternel, que se produisent des miracles, des guérisons, des actions de puissance dans cette ville de Jérusalem. Ils vont chercher ce qui était en train de leur manquer. Et vous savez quoi ? Le Seigneur ne va pas tarder à répondre. Parce qu'à la fin de cette prière, le lieu où ils sont vont être à nouveau remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit que ça aura pour conséquence, on va les retrouver dans les rues, en train d'annoncer l'Évangile avec force et assurance. Cet après-midi, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui te manque pour bâtir ta tour ? Qu'est-ce qui te manque pour bâtir ta tour ? Je pourrais prendre plein d'exemples. Qu'est-ce qui te manque pour aller vaincre tes 20 000 avec tes 10 000 ? Qu'est-ce qui te manque pour redevenir ce sel avec cette saveur ? Moi, j'aimerais transformer ce lieu en chambre haute. J'aimerais transformer ce lieu où, comme les disciples, vont réaliser les limites. Oh ! Ils ne sont pas fanatiques au point de ne pas constater et voir les réalités. Oh, l'ennemi est bien présent. Oh, le danger est bien là. Ils ne sont pas déconnectés des réalités. Ils vont s'asseoir. Ils vont calculer. Ils vont examiner. Oh oui, ils vont arriver à cette conclusion tragique. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. Est-ce que pour autant on doit abandonner ? Est-ce que pour autant on doit faire la paix avec l'ennemi ? Est-ce que pour autant on doit laisser tomber la tour qui représente notre vie spirituelle, notre engagement avec Dieu ? Est-ce que pour autant on doit aller à la rencontre de l'ennemi et lui dire « Viens, on fait la paix ?» Seigneur, t'appelles ce matin à t'asseoir, certes, à réfléchir, à compter, à examiner. Non pas simplement pour voir tes limites, mais pour voir les manques qui font qu'aujourd'hui, tu ne peux pas bâtir ta tour. Voir les manques qui font qu'aujourd'hui, tu ne peux aller vaincre tes 20 000 avec seulement 10 000. Alors je vais renouveler ma question. Où est ton manque ce matin ? Peut-être c'est un manque de foi. Tout simplement. peut-être c'est un manque de persévérance. T'as baissé les bras depuis un moment. Et en baissant les bras, oui, t'as fait la paix avec l'ennemi. J'aimerais te dire que tu ne feras jamais la paix avec l'ennemi. Parce que son objectif, c'est de t'anéantir. Peut-être t'as laissé tomber cette magnifique tour. T'avais bien commencé, t'étais bien parti. Puis on était heureux, on te voyait grandir, on se disait « Waouh, il va aller loin !» Et puis en réalisant le coût, en réalisant les besoins, en réalisant ce quoi ça t'engageait, t'as manqué de courage, t'as manqué peut-être de volonté. Peut-être ce matin, ce qui te manque, c'est peut-être aussi une bonne portion du Saint-Esprit. C'est peut-être aussi comme ces disciples dans Actes chapitre 4 qui ont eu besoin d'être renouvelés par les choses d'en haut, par la puissance d'en haut qui descend, qui vivifie, qui renouvelle. Que te manque-t-il ce matin pour finir ta tour? Que te manque-t-il pour vaincre ton ennemi, vaincre tes géants? Que te manque-t-il pour voir ta mer rouge se partager? Que te manque-t-il avec tes 300 pour vaincre ces myriades? Que te manque-t-il? Que te manque-t-il? Peut-être de l'assurance. Alors ce matin, comme les disciples, on va s'approcher du trône de la grâce. Comme les disciples, nous allons venir humblement près de toi, Seigneur. Nous tenir à genoux, élever des supplications en disant « Vois ce tumulte. Vois ces ennemis qui sont tellement nombreux. Vois ces montagnes impossibles à déplacer. Vois, Seigneur. Vois mes incapacités. Vois mon manque. Vois mon manque de consécration. Vois mon manque de sainteté. Vois ce qui m'empêche aujourd'hui de bâtir la tour qui va t'honorer. » Vois ce qui m'amène ce matin à dire « Seigneur, sans toi, je ne puis. » Peut-être tu es venu déjà dans ton esprit en déposant les armes et en disant « Je vais abandonner. Je vais en rester là. Je vais faire la paix avec l'adversaire de mon âme. » Mais comment tu peux dire une chose pareille? Où tu vas? Arrête-toi. Viens au trône de la grâce. Viens demander ce qui te manque. Viens réclamer ce qui te manque, viens supplier ce qui te manque. Et laisse Dieu t'envahir, laisse sa bonté remplir ton cœur. Laisse-le pourvoir à ce qui te manque, laisse-le te montrer qu'il est avec toi. Laisse-le te montrer qu'avec lui, qui peut être contre vous? On va baisser nos têtes quelques instants, s'il vous plaît. Jésus. Je vais faire un appel très court, mais... ce matin, tu réalises qu'il y a des manques. Tu sais au fond de toi qu'il y a des manques. Il y en a peut-être un, mais il est suffisant, ce manque-là, pour t'empêcher de bâtir cette magnifique tour. Oh, t'aimerais la bâtir, t'aimerais honorer Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui te manque ce matin? C'est une question qui est entre toi et ton Dieu, c'est une question qui n'appartient qu'à toi. Mais j'aimerais vraiment simplement t'inviter à te lever ce matin en disant « J'ai un manque dans ma vie. J'ai un manque. Il y a quelque chose dans ma vie, il y a un manque. » Les disciples se sont levés et ont réalisé que dans leur vie, il y avait un manque. Quelque chose avait été détruit au fond d'eux, quelque chose avait été broyé par les paroles des souverains sacrificateurs du Sanhédrin. Ce matin, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce qui te manque? Tu t'es assis, peut-être tu as fait la part des choses, tu as calculé, tu as examiné. Et ce matin, tu es capable de dire, il me manque ça, il me manque de la persévérance. Peut-être ce matin, dans ton cœur, tu peux dire, il me manque de la foi. J'ai envie d'y croire, mais j'y arrive pas. Peut-être au fond de toi, il manque la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Oh, t'aimerais bâtir cette montagne, tu aimerais bâtir cette tour, mais tu n'y arrives pas. Peut-être dans le domaine de la sainteté. T'as peut-être essayé de baisser les bras en disant « Autant pactiser avec l'ennemi. » Dieu veut t'arrêter en chemin et te dire « Hey, il y a une autre solution pour toi, pour ta vie. Il y a une autre possibilité ce matin. Viens dans la chambre haute. avec les disciples. Viens comme dans Acte 4. Vivre une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Viens comme dans Acte 4, saisir ce qui te manque. Peut-être c'est de l'assurance, il y a de la timidité, c'est maladif et tu voudrais louer Dieu, tu voudrais devenir cette tour, non pas qui veut être vue, mais qui s'exprime, qui loue le Seigneur. Que Dieu te donne l'assurance, mon frère, ma sœur. Deviens la tour que Dieu t'appelle à être. Deviens ce roi qui vient combattre et va combattre avec 10 000. 10 000 hommes, c'est 20 000. Deviens ce sel qui retrouve sa saveur ce matin. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces personnes qui se sont levées. Tu vois tous ces cœurs qui sont là, disant simplement, Seigneur, Seigneur, je veux plus être ce sel sans saveur. Je veux pas être ce roi qui part au combat sans réaliser que l'adversaire est trop grand et qui abdique en chemin. Je veux pas être non plus cet entrepreneur qui, avant même de commencer le chantier, se dit « je ne peux pas » et qui laisse tomber. Seigneur, on ne veut pas. Ce n'est pas ce que tu nous appelles à être. Alors ce matin, comme dans cette chambre haute, nous venons tous ensemble, d'un même cœur, Seigneur, te demander ta grâce, te demander ton secours quant à ce qui nous manque. Fais grâce dans la vie de mes frères et sœurs. Fais grâce dans ma vie, dans mes manquements aussi, Jésus. Fais grâce dans chacun d'entre nous ce matin. Tu vois les cœurs qui se sont assis ce matin, qui ont compté, qui ont pesé, qui ont réalisé, qui savent maintenant qu'il manque quelque chose dans leur vie. Esprit de Dieu, entends le cri de ton peuple qui dit Seigneur, donne-nous l'audace, donne-nous la foi, donne-nous la puissance, donne-nous le Saint-Esprit, donne-nous le courage, donne-nous la persévérance, renouvelle les forces, renouvelle ma volonté. Renouvelle mon désir, renouvelle mon feu, renouvelle ma passion, renouvelle les dons, renouvelle ma visitation, renouvelle la puissance de l'Esprit en moi, renouvelle le vouloir et le faire, renouvelle ce qui a besoin d'être renouvelé, Esprit de Dieu, que ce qui manque soit comblé par la puissance d'en haut, que ce qui manque soit comblé par la puissance du Saint-Esprit, et que mon frère, ma sœur puisse dire, je peux bâtir ma tour parce que je suis fort par celui qui me fortifie. Je peux bâtir ma tour parce que l'Éternel est avec moi. Qui sera contre moi? Je peux aller confronter les géants. Je peux aller confronter les 20 000 avec les 10 000 parce que l'Éternel me rend fort. Parce qu'il a remplacé, parce qu'il a changé, parce qu'il a transformé, parce qu'il m'a donné ce qui manquait. L'Éternel te rend fort au nom de Jésus. L'Éternel te renforce ce matin. L'Éternel comble. L'Éternel guérit. L'Éternel console. Qu'il te donne ce qui te manque pour devenir la tour auquel tu as appelé à être dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous tous ensemble. Louons le Seigneur. Levons-nous tous ensemble. Chantons-le.